Donc, qu'est-ce que la fibromyalgie? Donc, bon, si on prend le terme étymologique, donc la fibrose se compose de tissus fibreux, ligaments, tendons, myos, ce sont les muscles, et algie, ce sont les douleurs. Quelle est la prévalence de la fibromyalgie? Donc, il y a 3 à 5% de la population, 75% de femmes. On estime 14 millions en Europe et 3 millions en France. Elle représente 2 à 5% des consultations en médecine générale, 10 à 20% des consultations en rhumatologie. C'est une maladie orpheline dite par extension. Pourquoi orpheline par extension? Parce qu'elle n'a pas de traitement et on l'appelle par extension parce qu'elle ne peut pas être classée dans les maladies orphelines proprement dites puisqu'elle n'est pas rare. Hein, rien que le nombre des fibromyalgies correspond au nombre total de tous les gens atteints de maladies rares en France. C'est une maladie neurotendinomusculaire. C'est un état chronique de douleurs neuropathiques, de jour comme de nuit, avec des troubles du sommeil, donc le trouble du sommeil non récupérateur, une fatigabilité allant jusqu'à l'épuisement, des troubles cognitifs, donc des troubles de la concentration et de la mémorisation, des troubles gastro-intestinaux, pardon. Et on a encore plein d'autres symptômes qu'on peut avoir, et donc, comme disait François tout à l'heure, le syndrome de côlon irritable. Quels sont les traits de caractère d'un fibromyalgique en général? Donc, un fibromyalgique est une personne hyperactive, à la base, très très souvent. Ce sont des personnes qui se sont données beaucoup. Hein. Et donc, elles ont eu un surpassement dans tous les domaines, pouvant aller jusqu'à la limite de l'épuisement. Ce sont aussi des personnes hypersensibles des émotions, mais aussi hypersensibles des sens. C'est-à-dire hypersensibles à la température, donc le chaud, le froid, au bruit, à la lumière et à l'odorat. C'est très difficile parfois pour un fibromyalgique de vivre donc en société avec le bruit, d'être dans une réunion de famille, c'est pas toujours évident de supporter la musique, les paroles autour de vous. Voilà. Alors, la fibromyalgie donc se caractérise essentiellement par de la douleur. On l'appelle la maladie du mal partout, mal tout le temps. Alors, quel type de douleur a un fibromyalgique? C'est une douleur qui est toujours étendue et diffuse, qui peut aller du cou aux épaules et ensuite elle s'étend à tout le reste du corps, au dos, au thorax, aux bras et aux jambes. Et elle est présente à gauche comme à droite. Elle est permanente, nuit et jour, mais aggravée par les efforts, le froid, l'humidité, les émotions et le manque de sommeil. Et elle s'accompagne surtout de raideurs matinales. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, d'abord vous avez l'impression de ne pas avoir dormi, bon, on reviendra sur le sommeil tout à l'heure, et vous êtes complètement rouillé, vous n'arrivez pas à vous lever, il faut absolument tout déverrouiller, tout remettre en place, et ça peut durer très longtemps. La douleur varie en intensité, elle se déplace, parce qu'elle n'est pas toujours au même endroit. Il y a des douleurs qui sont permanentes, hein, des points dans le corps qui sont permanents au niveau douleur, qui ne nous quittent pas, et il y a d'autres douleurs qui varient, qui se déplacent. Et c'est une douleur qui peut être sourde et violente. Alors, quel type de douleur? Donc, ce sont des douleurs comme des courbatures, on a l'impression d'être dans un état grippal permanent. On peut ressentir, comme les personnes expriment ça aussi comme ça, comme des coups de poignard violents. Hein. Ça peut être aussi des sensations de brûlure, de piqûre, de décharge électrique, ou alors des fourmillements, des engourdissements musculaires. Moi, j'exprime toujours mes douleurs quand elles sont violentes. Je dis, mon épaule notamment, qu'il y a un petit chirurgien qui est là avec un bistouri et il est là en train de me charcuter à vif, sans anesthésie. Voilà, c'est le style de douleur qu'on peut avoir. Donc on a l'impression aussi très souvent d'être pris dans, on dit on est pris dans un étau, qu'on est passé sous un rouleau compresseur, on est complètement bloqué de partout. Voilà. Au niveau du sommeil, donc on a un sommeil non réparateur qui est entrecoupé et qui est de très mauvaise qualité. Donc le fait de mal dormir, d'avoir une dette de sommeil, entraîne de nombreux troubles de réparation et de repos des organes, des muscles et des tendons. Hein, le fait de ne pas dormir, tous vos organes en souffrent, évidemment, puisqu'ils ne peuvent jamais se reposer. Et on a un dérèglement de la production des hormones qui se fabriquent normalement la nuit, traditionnelles, qui se doivent se fabriquer la nuit. De ce fait-là, la fatigue, l'épuisement s'installent à force de ne pas dormir et de souffrir aussi, bien sûr. La fatigue, l'épuisement s'installent et on arrive à un état invalidant et dévalorisant qui s'installe. Alors, on recommande donc, Françoise en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc de faire des examens donc des troubles du sommeil, donc une polysomnographie, donc qui étudie donc votre sommeil, donc toute la nuit avec des électrodes, et on peut voir donc notamment donc on regarde si vous avez des micro-réveils, parce que les fibromyalgiques ont très souvent beaucoup de micro-réveils. On vérifie si vous avez vraiment des phases de sommeil récupérateur ou pas. Et on vérifie également si vous n'avez pas d'apnée du sommeil, parce que beaucoup de fibromyalgiques ont des apnées du sommeil et doivent être appareillées, comme ça a été évoqué déjà tout à l'heure pour le SFC. Hein. Beaucoup de fibromyalgiques aussi peuvent avoir le syndrome des jambes sans repos. Donc il faut le vérifier, et ça se vérifie toujours dans la polysomnographie. On vérifie également si vous n'avez pas de narcolepsie, de cataplexie. Donc, si vous êtes, si, après cet examen, ils établissent ce dont vous souffrez au niveau du sommeil, et vous pouvez être suivi à ce moment-là en centre des troubles du sommeil, et dans ce cas-là, on peut avoir une nette amélioration au niveau du sommeil, et bien sûr au niveau des douleurs, puisque le fait de ne pas avoir de sommeil entraîne une aggravation des douleurs. Alors, comme pour le SFC, il y a le problème donc de faire la distinction entre la dépression, donc la fibromyalgie et la dépression, puisque on est souvent catalogué de dépressif. Quelle est la personne ici qui n'a pas eu son médecin, un médecin qui lui a dit vous avez rien, c'est dans votre tête, hein, vous êtes dépressif, vous somatisez vos douleurs, il n'y a rien, évidemment, on n'a pas de marqueur, donc. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des fibromyalgiques qui sont, on va en parler tout à l'heure, qui sont vraiment dépressifs, hein, comme dans toutes les pathologies, il y a des personnes qui sont dépressives, c'est normal, mais il faut bien faire la distinction entre une fibromyalgie et une dépression réelle. Donc, comme je vous disais, donc la fibromyalgie est souvent confondue avec la dépression, parce qu'il y a des points communs, mais par contre, les soins et les pronostics sont complètement différents. Et justement, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc il y a des examens qui montrent la différence donc entre la dépression et la fibromyalgie. Donc, en explorant l'axe hypothalamus-hypophysaire, on a découvert que les résultats trouvés dans la fibromyalgie sont strictement opposés à ceux retrouvés dans la dépression. Un peu comme tout à l'heure pour le SFC. Hein. Les flux sanguins dans le cerveau, pareil, les anomalies fonctionnelles constatées sont indépendantes d'un état d'inquiétude et de dépression. Et alors, il y a l'IRM fonctionnel du cerveau, IRMF. Cette IRM fonctionnelle du cerveau, elle permet d'étudier l'activité cérébrale dans certaines zones impliquées dans la douleur. Et là, on a remarqué que pour les personnes dépressives, donc la dépression, elle n'influence pas la douleur à la pression, on va voir ça tout à l'heure dans les critères de diagnostic pour un fibromyalgique, il y a des points et on mesure la douleur par rapport à la pression sur ces certains points. Donc, quand on est dépressif, la dépression n'influence pas cette douleur à la pression que les fibromyalgiques ont. Mais il est important quand même de vérifier, d'éliminer vraiment le diagnostic d'une réelle dépression, puisqu'il y a des gens qui ont vraiment une dépression, qui ont besoin d'être soignés pour une dépression. Donc c'est quand même important. En revanche, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui sont dépressifs, hein, mais c'est une dépression réactionnelle dû au fait de souffrir en permanence, de manquer de sommeil, et aussi d'être confronté à cette dévalorisation sociale par le manque de reconnaissance de notre pathologie. Donc c'est un fait que beaucoup de fibromyalgiques ont cette dépression réactionnelle. Mais ce ne sont pas des dépressifs à la base. La fibromyalgie est une réelle maladie. Donc comment diagnostique-t-on la fibromyalgie ? Donc déjà, il faut, comme pour le SFC, il faut que la douleur et la fatigue durent depuis plus de 6 mois. Et pareil, c'est un diagnostic d'élimination. Parce qu'il est absolument nécessaire de pratiquer tous les examens, donc notamment sanguins, afin d'éliminer toutes les pathologies qui comportent les mêmes symptômes que la fibromyalgie. Donc il y a la polyarthrite rhumatoïde, il y a la spondylarthrite ankylosante, il y a de l'arthrose, il y a le lupus, il y a le syndrome de Gougereau-Chaugren. Il faut savoir quand même qu'il y a 30% environ des fibromyalgiques qui ont un syndrome de Gougereau-Chaugren. Après, donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pathologies, on va regarder, mesurer l'intensité des douleurs. Pour revenir à ces pathologies, il faut savoir quand même que même si on vous détecte une spondylarthrite ou une polyarthrite ou un syndrome de Gougereau-Chaugren, il faut quand même continuer les examens parce que vous pouvez avoir également une fibromyalgie. Beaucoup de fibromyalgiques ont une pathologie auto-immune associée. Donc ce type de pathologie, c'est très courant. Et quand on a une pathologie auto-immune associée, c'est la pathologie auto-immune qui est primordiale dans les symptômes et dans les soins. Donc il faut mettre en évidence les douleurs par un examen clinique. Donc on mesure leur intensité, on regarde leur localisation, on regarde leur fréquence, et aussi les handicaps et les invalidités qu'elles génèrent. Mais il faut aussi regarder, établir l'examen du contexte psychologique, parce que justement, le fait de ne pas être compris dans notre pathologie aggrave nos douleurs. Et il faut que le médecin en tienne compte quand même, qu'il examine quand même dans quel état psychologique on est pour établir un réel diagnostic et réussir à nous soigner le mieux possible. Donc c'est vraiment un diagnostic de médecine interne. Alors, je vous parlais tout à l'heure des points à la pression, donc ce sont les critères de l'ACR. L'ACR, c'est American College of Rheumatology. Donc, en 1990, l'ACR a établi des critères qui ont été complétés très récemment en 2010. Donc, en 1990, il se bornait, si on peut dire, à la réaction à la pression sur 18 points gâchettes, les fameux points de Yunus, et avec ces points répartis, donc 9 à droite, 9 à gauche, donc aux épaules, dans le dos, au coude, aux genoux. Voilà. Donc le médecin exerce une certaine pression et vous avez mal. On estime que si vous êtes souffrant, douloureux sur 11 points sur 18, vous êtes alors déclaré fibromyalgique. Après avoir évidemment vérifié le reste, comme tout à l'heure, et qu'on a vraiment douleur et fatigue depuis plus de 6 mois. Hein. Seulement, ça commençait à être un petit peu controversé, parce que il y a quand même des personnes qui ne sont pas fibromyalgiques et qui avaient quand même ces points douloureux. Donc ils ont été complétés en 2010, et là, ils ont pris en compte 19 éléments supplémentaires. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais notamment... on a regardé le nombre de parties du corps qui étaient douloureux, et surtout on a tenu en compte les trois caractéristiques les plus importantes, c'est-à-dire le sommeil non récupérateur, la fatigue et les problèmes cognitifs. Et tous les symptômes sont notés sur une échelle de sévérité de 0 à 3. Donc avec ces nouveaux critères, on pense qu'on aura un meilleur dépistage des fibromyalgiques, une prise en charge plus large du fait que l'examen maintenant est moins sélectif, et on peut éventuellement penser qu'on aura une augmentation du nombre de cas diagnostiqués. Alors, il existe aussi d'autres outils pour diagnostiquer les fibromyalgiques. Donc, je vais les passer très rapidement. Ce sont des questionnaires d'évaluation. Il y a le FIQ, le ELF, le FIRST. Il y a aussi les échelles d'évaluation de la douleur. Je pense que plusieurs d'entre vous, votre médecin, vous a demandé de mesurer votre douleur sur certaines échelles. Donc le VA, le VS, ce sont des échelles numériques. On vous demande de numéroter votre douleur de 0 à 10. Voilà. Alors, maintenant, comment s'installe la fibromyalgie? Donc, on pense que c'est à partir, c'est pratiquement sûr, mais que c'est à partir d'un terrain génétiquement prédisposé. Non, ce n'est pas une maladie génétique, hein, c'est un terrain génétiquement prédisposé. Donc, à partir de ce terrain génétiquement prédisposé, si le physique est atteint par un traumatisme lié soit à un accident, très souvent c'est un traumatisme du rachis cervical, une infection virale ou bactérienne, la maladie de Lyme, dont on a parlé tout à l'heure, hein, donc avec l'éthique, des infections du système urinaire, des infections du système digestif, également les interventions chirurgicales, les pathologies rhumatologiques et autres, mais aussi les problèmes environnementaux liés notamment à l'hypersensibilité. Hein, parce qu'il faut savoir que tout traumatisme, que ce soit un accident ou une intervention chirurgicale, est un acte qui provoque un stress pour l'organisme. Il y a donc si le physique est atteint, mais aussi si le psychisme est atteint. Donc si la personne a vécu des moments douloureux psychologiquement. Donc des passages dépressifs, anxiodépressifs, la personne peut avoir eu des dépressions réelles auparavant. Elle peut avoir subi aussi des événements stressants, comme les deuils, le licenciement, les abus sexuels. Et elle peut aussi subir des dévalorisations socio-professionnelles et subir l'incompréhension familiale. Donc, à partir de là, le système de gestion du stress est saturé et les dérèglements physiologiques s'installent, la fibromyalgie est installée. Parce que, donc, comme je vous disais, donc le que ce soit une attaque, une atteinte physique ou une atteinte psychique, c'est un stress pour l'organisme et on le verra tout à l'heure. Donc, on a un système de gestion du stress qui est bien fait pour un être humain normal. Il est au fur et à mesure de tous ces événements, parce que quelles sont les personnes dans leur vie qui n'ont pas vécu un accident, une opération chirurgicale, un deuil, un licenciement, et ne développent pas forcément une fibromyalgie. Donc on pense que à partir justement de ce terrain, il y a des personnes qui ont un terrain génétique prédisposé, qui fait que tous ces petits événements, petits ou grands événements de la vie, est mal digéré par le système de gestion du stress, hein, puisque bon, il ne fonctionne pas bien pour une personne qui est fibromyalgique à la base. Et donc, tous ces stress, tous ces événements ne sont pas éliminés par le système de gestion du stress. Donc le système de gestion du stress, il encaisse, jusqu'au jour où il est complètement saturé, et là, la fibromyalgie s'installe. Donc, on pense que donc il y a deux origines du déclenchement de la maladie, donc des facteurs génétiques prédisposants et une accumulation de stress prolongée et mal gérée. Donc, bon, je reviens bien là-dessus. Quand on parle de stress, ce n'est pas forcément psy. Ce peut être du stress physique, physiologique ou psychologique. Donc, le système neurologique est débordé et répond mal. Et le seuil, comme je vous disais, le seuil de tolérance propre à chaque individu est dépassé. Hein, le seuil de tolérance de son système de gestion du stress est dépassé. Et donc, l'atteinte chronique s'installe. Excusez-moi. Mais j'ai un syndrome de Gougereau, donc qui est une, comme je vous disais, et qui est une maladie auto-immune, qu'on appelle un syndrome sec. Donc je n'ai pas de salive, je n'ai pas de larmes, et donc le fait de parler, j'ai la bouche complètement sèche, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je commence à avoir des difficultés. Donc quelles sont les pistes au niveau de la fibromyalgie? Bon, on sait donc, il n'y a aucun marqueur biologique ou organique. Bon, c'est là notre gros problème. On ne trouve rien dans le sang, on ne trouve pas sur les radios, on ne trouve pas sur les IRM, on ne trouve rien dans les scanners. Donc, il n'y a aucun marqueur. Malgré tout, la recherche, bon, faut pas croire, il faut garder de l'espoir, la recherche progresse, hein. Et on a découvert, donc, comme on a vu abordé tout à l'heure très rapidement au niveau du cerveau, donc, qu'il y avait des anomalies, et de ce fait, on peut déclarer que la fibromyalgie est une entité à part entière, que c'est une maladie réelle qui existe. Et également que donc elle ne s'apparente plus à une maladie rhumatismale, mais à une maladie neurologique. Parce que bon, très longtemps, comme nos douleurs ressemblent à des douleurs rhumatismales, on a pensé que c'était une maladie rhumatismale. Et maintenant, bon, on s'aperçoit que ça vient du cerveau, et donc c'est une maladie neurologique. Alors, il y a des pistes qui sont explorées, donc la piste hormonale endocrinienne, parce qu'il existe un dysfonctionnement neuro-endocrinien de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et du système nerveux autonome. Mais bon, en l'état actuel de la recherche, on ne peut pas conclure vraiment à une piste, une cause hormonale de ce côté-là, mais les études continuent. La piste génétique, donc pour l'instant, elle est aussi à l'étude, parce qu'on a remarqué qu'il y a une prévalence supérieure dans certaines familles. Il y a quand même des familles de fibromyalgiques, de mère en fille, les tantes, les cousins, les cousines. Bon, il y a de plus en plus d'hommes diagnostiqués quand même, donc il y a aussi, mais essentiellement beaucoup de familles fibromyalgiques. Alors, il n'y a pas de gène responsable. Pour l'instant, on n'a pas découvert tout au moins de gène responsable. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Mais on pense qu'il y a plusieurs gènes, et c'est surtout l'application de plusieurs gènes entre eux et avec l'environnement qui semble impliqué. Alors, un marqueur spécifique, les études sont en cours pour justement trouver ce marqueur spécifique de la fibromyalgie qui nous aiderait beaucoup à comprendre, à la diagnostiquer, à la reconnaître et à la comprendre et à la soigner, évidemment. Donc, quels sont il y a trois états, on estime qu'il y a trois états dans la fibromyalgie pour un fibromyalgique dans l'évolution de la fibromyalgie. Donc il y a le stade 1, la personne a des gênes, un petit peu gênée, a des petites douleurs, mais elle continue à avoir une vie sociale et professionnelle normale. C'est supportable, on arrive à vivre sans aucun problème. Si on n'est pas diagnostiqué et que qu'on n'est pas pris en charge correctement, on peut arriver à ce moment-là au stade 2. Donc là, c'est la maladie, elle s'est installée. Elle est installée de façon chronique. Donc les douleurs sont impérieuses et occupent la grande partie de la vie du malade. On a mal, de jour comme de nuit. C'est vraiment installé. Et évidemment, au niveau des relations sociales, au niveau du travail, de la famille, ça pose vraiment des problèmes. Et parfois, c'est impossible, malheureusement, de travailler. Et si là, vraiment, alors là, on est au stade 2 et que rien n'est fait, que vous ne bougez plus, que vous ne vous prenez pas en charge, comme on verra tout à l'heure, et que vous n'êtes pas pris en charge non plus correctement par le corps médical, on peut arriver au stade 3, mais il faut savoir que le stade 3, normalement, on n'y arrive pas. Si on se prend en charge et qu'on a un bon suivi, il ne faut pas s'inquiéter, on n'arrive pas au stade 3. Hein. La fibromyalgie ne conduit pas normalement au fauteuil roulant. Si on est en fauteuil roulant, c'est éventuellement parce qu'on a d'autres pathologies associées ou parce que, justement, comme disait Françoise avec le CFC, il faut bouger. Même si on a mal, il faut bouger, il faut à tout prix éviter d'arriver à ce stade 3. Alors, il y a des personnes qui sont arrivées au stade 3 parce qu'ils n'ont pas été diagnostiquées du tout non plus, hein, parce que le diagnostic a été trop tard. Donc, le stade 3, c'est le malade peut devenir invalide s'il n'est pas pris en charge correctement. Évidemment, comme je vous disais, cet état doit être évité absolument. D'où la nécessité d'un diagnostic précoce. Hein. Alors, donc, comme on voyait tout à l'heure, la fibromyalgie, le cerveau est vraiment impliqué dans la fibromyalgie, hein. On nous dit que c'est dans notre tête. Oui, c'est dans notre tête. Ça se passe bien dans le cerveau, mais c'est pas du tout une maladie psy. Et pratiquement la totalité du cerveau est impliquée dans la maladie. Alors bon, là, il y a des termes un petit peu plus médicaux, donc on va passer. Donc, il y a l'hippocampe qui régule le stress. Et donc, comme on sait que justement on a un problème de régulation du système de gestion du stress. Il est saturé en cortisol et atrophié. L'amygdale, partie du cerveau, hein, pas les amygdales qu'on a là, l'amygdale est suractivée. Le patient, même au repos, est hyperactif. Il est hypersensible, il est tendu et douloureux. Le cortex singulaire, qui lui n'assure plus du tout son rôle de médiateur. Et donc de médiateur au niveau des émotions. Donc les émotions, elles ne sont plus gérables et elles génèrent automatiquement un stress négatif. L'hypothalamus antérieur qui synchronise l'horloge interne, donc qui pose aussi des problèmes. Donc le cerveau est en souffrance. Et on assiste alors à une distorsion de production des neuromédiateurs essentiels. Donc je pense qu'on vous en a déjà parlé au niveau de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Donc nous avons un problème au niveau de ces neuromédiateurs. Voilà, ce sont les trois principaux. Donc le cerveau n'opère plus efficacement son rôle de transmission donc, et de régulation des informations reçues, puisque ces neuromédiateurs sont mal produits. Donc avec l'IRM fonctionnel du cerveau, comme on a vu tout à l'heure, cet IRM fonctionnel du cerveau qui permet d'étudier l'activité cérébrale dans les régions impliquées dans la douleur, comme on a vu tout à l'heure, dans cet IRM fonctionnel du cerveau, on l'a fait passer à des personnes reconnues douloureuses chroniques et à des personnes qui avaient été diagnostiquées fibromyalgiques. Et il a été mis en évidence dans les zones du cerveau qui gèrent la douleur chez les fibromyalgiques, ces douleurs étaient amplifiées. Chez les douloureux chroniques, c'était amplifié, évidemment, ça c'était normal, et chez les fibromyalgiques aussi. Et donc, on a pu constater à ce moment-là, reconnaître que les fibromyalgiques, leurs douleurs étaient vraiment réelles, elles n'étaient pas psychologiques, hein, et que le centre de la douleur répondait mal, enfin, répondait trop bien, en réalité. Hein. Malheureusement, cet examen ne se pratique pas en diagnostic. Il se pratique uniquement dans le cadre de la recherche. Alors après, il y a aussi des études qui sont faites par imagerie, par balayage du cerveau, donc avec étudier les flux sanguins dans le cerveau. Et il a été constaté que la fibromyalgie est liée aux anomalies des flux sanguins dans le cerveau. Donc ce sont au niveau des zones du cerveau qui sont impliquées justement dans la sensation de la douleur, et dans la zone de réponse émotionnelle à cette douleur. Il y a aussi des dysfonctions qui ont été constatées par la recherche au niveau des dosages de glutamate, au niveau de la protéine ASI-C3. Donc la protéine ASI-C3, c'est une protéine que l'on peut détecter par IRM, et qui est en dosage anormal dans le cerveau des fibromyalgiques. La substance P intervient dans le mécanisme de la douleur dont les taux sont élevés dans le LCR, c'est-à-dire le liquide céphalo-rachidien. Donc chez un fibromyalgique, cette substance P est plus élevée. La sérotonine, les taux sont diminués dans le LCR et dans le sang. Et il y a également une altération de la sécrétion de l'hormone de croissance. Donc on peut conclure que la fibromyalgie est un état clinique qui relève en priorité donc d'un dysfonctionnement central du système nerveux autonome et d'un dysfonctionnement du contrôle des douleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, la fibromyalgie ne s'apparente plus à une maladie rhumatismale, mais à une maladie neurologique. Alors, la prise en charge du fibromyalgique. Bon, il faut savoir qu'il n'existe pas de traitement donc approprié, constitué uniquement par des médicaments allopathiques. La pilule miracle en allopathie n'existe pas. Les traitements allopathiques ne suffisent pas. Comme on verra tout à l'heure, il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Elle passe d'abord, cette prise en charge, donc par la prise en charge du malade lui-même. Le malade doit vraiment apprendre à gérer son stress, parce que tout stress, quel qu'il soit, aggrave la fibromyalgie. Donc, ça passe d'abord par la gestion du stress du malade. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on va parler justement de la sophrologie, on va parler de la relaxation, de la gestion du stress. C'est très important, que le malade gère son stress. Donc, il peut gérer son stress par une hygiène de vie donc adaptée, par une relaxation physique et mentale, comme on va voir, et puis essayer d'avoir une de lui-même, à ne pas se prendre pour quelqu'un de diminué socialement, au niveau familial, au niveau personnel. Il faut axer sur sa propre revalorisation. Et il faut avoir une activité physique de réentraînement à l'effort, mais pratiquer régulièrement. Bien sûr, dans la limite du raisonnable du seuil douloureux, comme disait François tout à l'heure avec le SFC, au début, vous bougez, il faut absolument bouger. Bon, il faut partir du principe que, de toute façon, on a mal. Donc, vous avez mal. Que vous bougiez ou vous bougiez pas, vous avez mal. Donc, autant bouger, même si c'est très difficile, mais c'est indispensable. Moins vous bougerez, plus la maladie s'installera et plus les douleurs s'installeront et ça sera l'engrenage. Et il faut absolument se remuer, marcher un peu, même si au début vous n'arrivez que 5 minutes, et bien le lendemain vous en ferez 6, après vous en ferez 7, et après vous verrez, vous y arriverez beaucoup mieux. Et même si au cours d'une promenade, moi ça m'est déjà arrivé, hein, au moment où j'étais en pleine crise, vous n'arrivez plus à avancer, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le choix. Des fois, les jambes ne répondent plus, ça ne bouge plus, c'est tout. Vous êtes là, vous êtes coincé. Ou alors, moi, j'avais aussi, à un moment donné, des gros coups de fatigue et ça me tombait dessus. C'est tout. Je m'appuyais éventuellement contre un arbre, je fermais les yeux et j'attendais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, de toute façon, j'étais bien coincée. J'étais partie promener mon chien. J'étais dans un bois. Je ne pouvais plus rien faire. Il fallait bien que je revienne. Puis, on attend. Et puis on se force et on revient. Et c'est le seul moyen de s'en sortir. Ça fait mal. Hein, moi, je pense que celles qui me connaissent savent que je l'ai déjà dit. Au départ, j'avais mon chien, il fallait que je le promène, il n'y avait rien à faire. Et l'hiver, vous sortez, vous êtes pris par le froid, donc vous contractez, vous souffrez encore plus. Hein, et vous y allez. J'ai même maudit des fois en disant « tu me casses les pieds de devoir aller te promener, mais j'y vais ». Et je suis partie avec des lunettes de soleil en plein hiver parce que je pleurais de rage et de douleur, mais je l'ai fait. Et ça m'a permis d'avancer et de pouvoir d'être vraiment mieux. Et après, j'ai connu la balnéothérapie et là, ça a été vraiment mieux. Donc, comme je vous dis, ces activités sont vraiment indispensables pour éviter l'affaiblissement musculaire et mental, parce qu'après, vous avez votre mental qui souffre également, et donc ça va augmenter tous vos symptômes. Donc il faut absolument, comme je vous dis, aller au-delà des douleurs et des incapacités physiques pour éviter une aggravation et pouvoir progressivement retrouver une autonomie. Donc il faut bouger pour éviter l'aggravation et bouger pour retrouver son autonomie. Le médecin doit également considérer le patient dans son ensemble physiologique, psychologique, social, affectif, travail, famille et difficultés financières, puisque bien souvent des difficultés financières qui se grèvent puisque vous perdez votre emploi, vous êtes au chômage, voilà. Donc le médecin ne doit pas regarder que le problème physique, il doit aussi prendre en compte tous ces éléments. Et si on s'occupe de tout ça, on peut alors espérer vraiment une évolution favorable et régressive de la maladie. Donc, quel est le point de vue du ministère de la Santé, donc, au niveau de cette prise en charge du fibromyalgique? Donc là, je vous cite le texte du ministère de la Santé. Il n'existe pas à ce jour de traitement spécifique de la fibromyalgie. Le traitement associe des médicaments antalgiques, antidépresseurs, autres psychotropes et des thérapeutiques non médicamenteuses. Kinésithérapie, balnéothérapie, exercice physique, psychothérapie, relaxation, acupuncture, neurostimulation par exemple. On abordera cela tout à l'heure. Hein. Mais bon, voilà, donc ce sont vraiment les préconisations maintenant du ministère. Donc c'est bien ça. Donc pas que les traitements allopathiques, mais aussi les traitements. Donc une thérapie multidisciplinaire est vraiment la mieux adaptée. Mais la prise en charge multidisciplinaire passe aussi par l'acceptation de la maladie par le patient. C'est vraiment indispensable. Si vous êtes dans la révolte, dans le rejet de la maladie, vous augmentez votre stress déjà. Hein, si vous dites c'est pas possible, c'est pas vrai, je mérite pas ça, j'ai trop mal, c'est plus vivable. parce que bon, c'est vrai qu'à des moments, c'est hyper douloureux, c'est très très difficile à vivre. Il faut, vous ne pouvez pas aller bien. On ne voit une amélioration aussi que lorsqu'on a accepté cette maladie. Il faut accepter, dire bon ben, de toute façon c'est pas mortel, c'est déjà pas mal, hein. Et puis on se dit bon, on n'aura jamais une vie comme tout le monde, parce qu'il y a des fois ben on est invité, ben ce soir-là ben on peut pas y aller. On avait prévu, on pensait qu'on serait bien, et puis ce jour-là, on peut pas y aller. On peut pas forcément inviter non plus. Il y a des périodes où ça va pas. Bon, on n'aura pas forcément une vie comme tout le monde, c'est sûr. Mais on a une vie, et cette vie, il suffit de s'adapter, et on peut avoir une vie correcte, avoir une vie pas comme les autres, mais ça peut être agréable quand même à vivre. Il faut essayer à ce moment-là de trouver le positif de chaque moment. Mais et si vous passez par ça, que vous l'acceptez, votre maladie, vous verrez, déjà, vous irez beaucoup mieux. Et ça passe aussi donc par l'ETP, donc c'est l'éducation thérapeutique du patient, qui est la priorité du plan national 2007-2011 pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Le patient donc apprend ainsi à être plus autonome et devient acteur. Et ceci, c'est un élément essentiel pour une réussite entre les traitements non médicamenteux et médicamenteux. Donc, on demande maintenant au patient d'être acteur de son traitement. Et il ne faut pas hésiter à discuter avec votre médecin et d'aborder d'autres thérapies avec lui et ne pas se cantonner donc aux médicaments allopathiques, aux antidépresseurs, aux antiépileptiques. Ce qui est important aussi, c'est l'information de l'entourage. Parce que, bon, nous sommes tous passés par là, ça ne se voit pas sur nous, les gens ne comprennent pas. Ah, t'as mal au dos, bah oui, mais moi aussi j'ai mal au dos, t'es fatigué, moi aussi je suis fatigué. Ben oui, mais non, nous, ce sont quand même des douleurs différentes. Hein, c'est con. Et l'entourage ne comprend pas, on passe pour des personnes qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours quelque chose qui ne va pas, des tirs au flanc aussi. Donc, il faut absolument que l'entourage soit informé de son état, de l'état du malade, qu'il comprenne ce que c'est la fibromyalgie, et il doit apprendre aussi l'entourage donc à respecter le malade. Sinon, les symptômes sont accrus, hein, et le malade est exclu. Hein. Et parce qu'on assiste quand même beaucoup à des divorces chez les fibromyalgiques. Parce que le conjoint ne comprend pas que la personne n'arrive à rien faire. Il y a des périodes où on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, c'est très difficile à vivre également pour l'entourage, parce que s'il n'est pas informé, il ne peut pas comprendre. Déjà, nous, même au départ, le jour où on nous pose le diagnostic, on a de la peine à comprendre. Donc, pour l'entourage, c'est encore plus difficile. Et ce qui est très très important pour un fibromyalgique, c'est de ne pas rester isolé. Hein, parce que justement, comme c'est une pathologie qui est difficilement reconnue et connue, on se pose beaucoup de questions, on n'est pas toujours bien informé. Bon, d'où le rôle justement, comme disait François, des associations de malades, c'est aussi de vous informer. Mais il faut surtout ne pas rester isolé et discuter avec d'autres fibromyalgiques. Moi, je sais que quand j'ai démarré la balnéothérapie, on était en groupe, et c'est vrai qu'au début, on se posait beaucoup de questions entre nous. C'est quoi ? Ah bah toi, t'as ça aussi, ça. Et on se croyait à un moment donné des extraterrestres, hein, parce qu'on avait des choses quand même bizarres, parce qu'on a quand même des choses bizarres. Et on s'est aperçu que non, on était toutes comme ça. Donc, ça fait du bien. Et je sais que quand j'ai démarré la balnéothérapie en groupe, le professeur qui m'y avait envoyé m'avait dit qu'il préconisait justement de la balnéothérapie, mais pas en individuel, en groupe. Parce que le fibromyalgique ne doit pas rester seul, il doit sortir de son isolement et il doit discuter avec des autres fibromyalgiques. Donc c'est très très important. C'est vraiment un des piliers de la thérapie. Parce que le malade, justement, se sent seul, incompris. S'il est tout seul, il ne comprend pas. Et en plus, les gens ne le comprennent pas et il se pose plein de questions. Donc, il est incompris de l'entourage et il est incompris aussi parfois du corps médical, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de médecins qui ont des difficultés avec la fibromyalgie. Donc, comme je vous disais, donc rencontrer d'autres fibromyalgiques, pouvoir discuter avec eux, apporte un bénéfice considérable dans la revalorisation de soi et dans la connaissance de la maladie. Donc c'est vraiment une démarche indispensable pour tout fibromyalgique. Quant au rôle des médecins, c'est très important d'avoir une très bonne relation malade-médecin et une confiance réciproque entre le patient et le médecin. C'est vraiment la clé de la réussite de tout traitement. Si votre médecin ne croit pas vraiment en votre pathologie, en votre état, ou vous avez l'impression qu'il ne connaît pas bien la fibromyalgie, un conseil, il faut changer de médecin. C'est hyper important d'avoir un médecin qui vous comprend et qui vous soutient. Donc, les traitements non médicamenteux. Donc, je vais d'abord aborder les traitements médicamenteux avant les traitements médicamenteux, parce qu'ils sont quand même à avoir en priorité. C'est quand même, maintenant, l'accent est vraiment mis là-dessus, sur l'approche non médicamenteuse. Non, l'approche non médicamenteuse, par contre. Donc, un soutien psychologique, même si vous n'êtes pas dépressif, réellement dépressif, on a très souvent besoin d'un soutien psychologique, parce que c'est une maladie qui est difficile déjà à vivre. Et donc, il ne faut pas aller voir un psychiatre analyste, sauf si vous avez une réelle dépression avec des problèmes de vécu à éliminer. Donc, à ce moment-là, vous avez besoin d'une analyse. Sinon, il faut aller voir un psychiatre comportementaliste, donc qui pratique la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, et qui va vous aider, donc au niveau de votre cerveau notamment, à prendre en compte et en charge la douleur. Et il va vous apprendre, il y a un retour avec un comportementaliste, il y a un dialogue, il y a un retour, et il vous apprend à accepter la maladie, et il vous apprend à gérer votre douleur et à vivre avec. Parce que des études ont été faites sur plusieurs panels de patients et de douleurs chroniques notamment aussi. Hein, la TCC a vraiment une efficacité en termes de douleur, en termes de fatigue et d'humeur. Donc là, je vais vous énumérer assez rapidement donc les différentes techniques donc non médicamenteuses. Il y a le biofeedback et l'hypnose. L'hypnose analgésique, hein, pas l'hypnose où on régresse dans le passé et tout ça. La relaxation, bon, la sophrologie, donc comme on va l'aborder tout à l'heure, donc je le cite simplement. La méditation, la musicothérapie également, ça se fait de plus en plus. La kinésithérapie, donc à viser donc antalgique contre la douleur, mais aussi décontractante, et la réadaptation à l'effort, avec donc aussi des étirements. Le Qigong, le Tai Chi Chuan, le yoga. Le Qigong, donc, qui vous font libérer vos énergies, qui vous aident, qui vous déstressent également. Hein. Le Tai Chi Chuan, c'est en gros, disons, une chorégraphie de mouvements du Qigong. Bon, le Tai Chi Chuan est parfois assez difficile pour un fibromyalgique qui a beaucoup de troubles de mémoire et de concentration, puisqu'il y a un enchaînement de mouvements enregistrés. Donc ce n'est pas toujours facile, mais bon, ça peut être également quand même un bon exercice justement pour faire travailler la mémoire. La balnéothérapie. Donc la balnéothérapie, donc dans une eau à 34 degrés minimum, parce que si vous allez dans une piscine avec une eau à température, disons, normale, à 28 degrés ou 30 degrés, vous vous contractez par le froid et là, vous n'avez aucun bénéfice. Ça, c'est sûr. Donc, parce que l'eau chaude donc a un effet antalgique et décontracturant. Il y a également une diminution des contraintes articulaires. Il faut savoir que dans l'eau, votre poids est divisé par 10. Donc, automatiquement, vous pouvez faire des exercices. Pour la réadaptation à l'effort, c'est ce qu'il y a de très bien, puisque vous pouvez vous bouger dans l'eau. Ce que vous n'arrivez pas à faire à l'air libre, vous pouvez le faire. Votre poids est divisé par 10. Bon, il ne faut pas abandonner, parce que les personnes qui commencent la balnéothérapie, si elles n'ont pas fait d'exercice depuis des mois, même des années, évidemment, le lendemain et dans les jours qui suivent, elles vont avoir des courbatures. Mais comme toute personne, toute personne qui a arrêté le sport, qui ne fait rien et qui reprend une activité, a mal. Donc, il ne faut pas dire « la balnéothérapie ne me réussit pas ». Il faut persévérer et éventuellement commencer par des toutes petites séances. Et alors, bah, l'éothérapie, il y a aussi des jets, et ces jets, il ne faut pas hésiter à demander au kinésithérapeute de les faire, de les régler très faibles, hein, quitte à augmenter après l'intensité au fur et à mesure, mais il faut vraiment démarrer très faible, sinon ça va vraiment être trop difficile. Alors, cette balnéothérapie, elle est complémentaire avec les séances de kiné, et elle devrait normalement être pratiquée 2 à 3 fois par semaine. Mais il faut le pouvoir. Hein, il faut déjà aussi avoir un médecin qui vous prescrive des séances de balnéothérapie et qui accepte de vous en prescrire 2 à 3 fois par semaine et que ce soit accepté par la Sécurité sociale. Voilà. Mais ce sont les recommandations de l'EULAR. C'est ça, normalement. Dans les traitements médicamenteux, il y a aussi donc les cures thermales. Donc, certains centres de cure proposent des programmes spécifiques pour les fibromyalgiques et qu'elles permettent donc une prise en charge plus douce et adaptée de la pathologie. Et juste aussi, ce qui est bien aussi dans les cures thermales, c'est un échange avec d'autres malades quand vous prenez un centre qui a des sessions spécifiques fibromyalgie. Bon, ceci dit, on en parlera tout à l'heure, mais les cures, faut pas vous attendre en général à un miracle la première année. Il faut quand même en faire plusieurs. Hein. Et en général, ça a un apport au moins 6 mois. Hein. Et c'est pour ça que si vous faites une cure et qu'après vous ne faites rien de l'année, ça ne sert pas à grand-chose. Quand vous faites une cure, il faut après vous mettre en balnéothérapie et continuer à entretenir. Hein. C'est vraiment indispensable. Et bon, tout à l'heure, on disait que pour un SFC, la cure était vraiment trop fatigante. Bon, il arrive pour certains fibromyalgiques que ce soit vraiment très difficile. Les fibromyalgiques qui sont aussi atteints de SFC, parce qu'il y en a, et qui ont une fatigue chronique très importante, plus le fait qu'ils n'ont pratiquement jamais bougé, quand ils démarrent une cure, ça peut être très difficile. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller voir le médecin thermal et puis essayer d'adapter. Donc, il y a l'acupuncture qui donne des résultats chez certaines personnes, l'ostéopathie également, l'électrostimulation, le TENS. Donc, le TENS, vous verrez tout à l'heure dans la salle, il y a une personne qui en porte un en permanence. Hein. Donc, c'est un petit boîtier, c'est un petit appareil que vous branchez avec des petites électrodes et qui vous décharge des petites décharges électriques. Ça apporte souvent un soulagement, mais il doit être porté 4 à 5 heures par jour. Et c'est prescrit par un CAD, c'est-à-dire un centre antidouleur, donc avec un système de location, puis d'achat, et qui est pris en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle. Mais il y a des personnes qui ont vraiment un très bon résultat avec le TENS. Moi, personnellement, c'est une chose qui ne me réussit pas du tout, je ne supporte pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui apprécie vraiment le TENS. Alors, depuis quelque temps, donc, il y a eu des protocoles qui ont été établis dans certains hôpitaux sur la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, RTMS. Donc là, on met sur la tête des petites bobines à la surface du cerveau avec des champs magnétiques. Bon, c'est fait pour les douloureux chroniques. C'est variable suivant les personnes. Ça marche chez certains fibromyalgiques. Il y a une amélioration de la douleur. C'est encore en protocole. Bon, il y a certaines cliniques privées maintenant qui le mettent en place. Le problème de... Donc, ça a vraiment un effet antalgique sur les douleurs neuropathiques, hein, ou chroniques, mais ça ne vous guérit pas. L'efficacité est brève, et donc, quand vous faites des séances, mais vous devez toujours aller faire des séances de stimulation magnétique transcrânienne. Donc, c'est assez prenant, quand même. Au niveau des traitements médicamenteux, bien que ici, aujourd'hui, on doit parler des traitements non médicamenteux, l'approche non médicamenteuse, je vais vous énumérer quand même vite fait ce qui est préconnu, ce qui peut être prescrit. Mais dans un premier temps, bon, je veux quand même rappeler que les fibromyalgiques, ce sont des personnes hypersensibles. Donc quand on dit hypersensible, on est hypersensible aux effets secondaires des médicaments. Donc il faut faire très attention à la pathologie, hein, à cause de ça. Donc, il faut savoir que les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ne sont pas du tout efficaces. C'est un test également, hein, quand on fait un diagnostic, quand vous avez mal, pour, comme une maladie rhumatismale classique, on essaie un anti-inflammatoire. Déjà, si ça ne marche pas, c'est qu'on peut se poser quand même des questions. Les morphiniques et les opioïdes forts et les corticoïdes ne sont pas recommandés par le LAR. Et en plus, la cortisone, normalement, ne fonctionne pas non plus sur un fibromyalgique, ne soulage pas. Donc, tout ce qui est, on a énormément de tendinite. Une tendinite n'est pas soulagée par la cortisone chez un fibromyalgique. Vous avez, moi j'ai fait l'expérience là dernièrement puisque j'ai une autre pathologie qui s'est développée. J'étais carrément impotente cet été. J'ai une PPR, c'est une pseudo-polyarthrite rhizomélique. Et donc j'ai des tendinites partout, les coudes, les épaules, les poignets. C'est des tendinites de fibro qui sont là depuis des années et des années. Bon, qui ne passent pas avec les anti-inflammatoires, avec la cortisone. Bon. Mais avec cette PPR, j'ai attrapé des tendinites encore plus importantes, et notamment au niveau du bassin. Et des tendinites, par contre, qui se voyaient à l'IRM. Hein, alors que les autres ne se voient pas. Donc, ils se voyaient à l'IRM. Bon, une fois que le diagnostic a été posé, il y a eu plein d'examens pour poser le diagnostic. Donc là, le médecin m'a dit, maintenant, vous allez prendre la cortisone. Bon. Et donc, ça a été miraculeux. En 24 heures... Mes tendinites, donc au niveau du bassin, toutes les tendinites liées à la PPR ont disparu. Mais toutes mes tendinites qui sont là depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, j'ai des tendinites qui sont là, elles sont toujours là. Mes tendinites de fibromyalgie n'ont pas disparu. Je suis toujours sous cortisone, puisque j'en ai au moins pour 3 ans, et mes tendinites sont là, mais pas les tendinites de la PPR. Donc ça, c'est aussi un test, si on peut dire, au niveau du diagnostic. Donc les benzodiazépines, les myorelaxants, les traitements agissant sur le sommeil n'ont pas montré d'efficacité non plus dans la fibromyalgie. Et il faut faire attention aussi, on a des gros problèmes avec les benzodiazépines, il faut quand même les éviter parce qu'il y a une énorme dépendance et le sevrage est très très difficile. Donc peuvent être prescrits des antalgiques, comme le paracétamol, seul ou associé à la codéine, caféine, le tramadol, qui a de bons résultats parfois chez les fibromyalgiques et peut apporter une amélioration, mais il faut faire très attention. Si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter, parce que il n'est pas très bien toléré. Hein. Moi, je sais que je ne peux pas en prendre. J'en prends un, je suis un zombie, j'ai des vertiges, je n'urine plus. J'en ai repris encore récemment, donc au mois d'août, quand j'étais donc invalide. Le médecin, que je souffrais énormément, il m'a dit « Non, c'est quand même efficace, il faut en prendre. » J'ai quand même cédé. J'en ai pris un. Impossible. Je vais faire une analyse d'urine, c'était impossible. Et j'étais dévertie, je ne tenais plus debout, j'étais un zombie. J'en ai pris qu'un seul. Donc, et le problème... Alors, les gens qui en prennent... qui le supportent plus ou moins et qui continuent à en prendre, faire très attention, il y a un gros risque de dépendance puisque c'est quand même un opiacé. Donc le sevrage est très très difficile. Nous, on a beaucoup de personnes à l'association qui ont entrepris un sevrage et c'est très dur. Les antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, il ne faut pas non plus vous braquer quand on vous prescrit des antidépresseurs parce que en disant « Mais non, je ne suis pas dépressive, je ne veux pas d'antidépresseurs ». Il faut savoir que ces antidépresseurs, ils vous sont prescrits aussi pour justement recapturer la sérotonine, les neuromédiateurs dont on manque. Hein, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ils sont là pour ça. En sachant aussi que les antidépresseurs ont un effet antalgique. Hein. Malheureusement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Hein, mais aussi, là aussi, également, il faut faire attention pour pas les prendre à des doses importantes comme un dépressif, c'est à dose faible. Toujours aussi, d'autant plus que, comme je vous disais, on est des hypersensibles et hypersensibles aux effets secondaires. Donc, on prescrit aussi, on vous a peut-être prescrit des antiépileptiques. Donc, les antiépileptiques sont prescrits pour les douloureux, pour les personnes qui souffrent de douleurs neuropathiques. Donc, les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs diffuses ou localisées à type de brûlure, de fourmillement, de décharge électrique, de contraction et d'engourdissement. Donc, là, c'est pareil, ça peut fonctionner chez certaines personnes, ça peut ne pas fonctionner. Et puis bon, tous ces traitements, antidépresseurs, antiépileptiques, doivent être éventuellement, peuvent vous être prescrits au départ pour vous aider à retrouver une certaine vie, à vous reprendre en main. et pour pouvoir justement passer à l'approche multidisciplinaire de la prise en charge. Mais ils ne doivent pas être pris sur le long terme. C'est pas un traitement à vie, ça peut vous aider pendant quelques temps, mais pas, il ne faut pas le prendre tout le temps. Et surtout pas à très forte dose. Il faut prendre de la vitamine D, mais parce que, il n'y a pas que les fibromyalgies qui sont en manque de vitamine D, hein, mais donc il faut prendre de la vitamine D, et bien entendu, il faut vérifier le taux au préalable, parce que trop de vitamine D n'est pas bon non plus. Donc il faut quand même demander un bilan sanguin et vérifier, mais il faut prendre la vitamine D. Il faut prendre des vitamines B1, B6, B9, B12, du magnésium en continu et à dose élevée, ça c'est très très important, hein. Bon, je ne reviens pas non plus donc sur la partie alimentaire, parce que comme disait Françoise avec le SFC, bon, les fibromyalgiques peuvent aussi avoir des problèmes donc au niveau de l'intestin, avoir des candidats, et il faut donc avoir un régime donc alimentaire adapté dans ce cas-là. Hein, on parle aussi des intolérances au gluten, au lactose, bon, les problèmes de levure, hein, donc comme pour le SFC. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aucun médicament ne traite la fibromyalgie. Donc, ce sont des médicaments qui peuvent vous aider, mais il n'y a pas de médicament qui guérit réellement la fibromyalgie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, elle est considérée comme une maladie orpheline, par extension, du fait du nombre élevé de malades. Qui doit-on consulter? Donc, à la base, ce sont des rhumatologues. Parce que ce sont eux qui ont reçu les premiers patients, les douleurs ressemblant à des douleurs rhumatismales. Les gens, ce sont même les médecins, les généralistes, ont envoyé leurs patients devant un rhumatologue. Et donc, les rhumatologues continuent donc, bien que ce soit plus rhumatismal, à soigner les fibromyalgiques. Normalement, ça devrait être un neurologue. Malheureusement, puisque ce n'est pas une maladie rhumatismale, ça devrait être pris en charge par les neurologues. Malheureusement, peu de neurologues connaissent la fibromyalgie et peu de neurologues n'ont envie aussi et le temps de s'en occuper. Il y a la sclérose en plaques qui leur prend beaucoup de temps et avec le plan Alzheimer, ils sont débordés. Donc, comme les rhumatologues, pour finir, sont plus au fait de la fibromyalgie puisque depuis des années, c'est eux qui gèrent plus ou moins, c'est encore les rhumatologues qui soignent. Bon, il y a des neurologues qui acceptent et qui sont au courant de la fibromyalgie, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de neurologues qui ne veulent pas entendre parler de la fibromyalgie. Et après, il y a donc, comme je vous disais tout à l'heure, que le diagnostic est en réalité un diagnostic de médecine interne, donc il faut, pour votre diagnostic, et justement éliminer d'autres pathologies auto-immunes, aller en service de médecine interne dans les centres hospitaliers, et aussi aller dans les centres antidouleurs, qui sont donc habilités à diagnostiquer la fibromyalgie. Quant à la reconnaissance de la fibromyalgie, donc la reconnaissance, disons, plus ou moins officielle, il faut savoir quand même que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu la fibromyalgie en 1992. Et on en est toujours à se battre, malgré tout. Donc au départ, comme on ne connaissait pas quelles en étaient vraiment les causes, elle a d'abord été classée comme maladie rhumatismale, la M au chapitre M79-0. Mais en janvier 2006, donc avec l'évolution de la recherche, elle a été reconnue comme maladie à part entière, donc elle est sur le chapitre M79-7. Il y a eu aussi une grande évolution dans l'avancée de la reconnaissance de la pathologie. Lorsque l'Académie de médecine, donc en France, dans son rapport en janvier 2007, l'a déclaré comme un syndrome. Donc ce rapport avait été demandé donc par le ministère de la Santé auprès de l'Académie de médecine, donc d'étudier la fibromyalgie. Et donc je vous invite à lire ce rapport. Bon, celui-là, il est facile à lire, il fait qu'une quinzaine de pages. Et donc, mais il y a une véritable reconnaissance de la pathologie. Bon, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, puisqu'il y a plusieurs syndromes. Ouais, j'ai fini. Le Parlement européen, en décembre 2008, a fait une déclaration écrite demandant aux États membres des recommandations pour une meilleure prise en charge de la fibromyalgie des malades. Ce sont que des recommandations à tous les États membres de l'Europe pour avoir une prise en charge réelle et correcte des malades. Et cette déclaration a été complétée en octobre 2009. Et tout dernièrement, la HAS, la Haute Autorité de Santé, avait été sollicitée depuis plusieurs années par le ministère de la Santé pour établir un rapport sur la fibromyalgie. Elle a été établie en juillet 2010. Elle a été publiée en octobre 2010. Et ce rapport établit un état des lieux des données disponibles, voilà, c'est le titre exact, concernant le syndrome fibromyalgique de l'adulte et propose aux professionnels de santé des orientations de prise en charge. Donc dans ce rapport, c'est essentiellement donc pour les professionnels de santé comment prendre en charge la fibromyalgie. Bon, ce rapport est disponible sur Internet, mais il fait 124 pages. Alors quel est le professionnel de santé qui prendra le temps de lire 124 pages? Ça, c'est un autre problème. Donc, malgré ces reconnaissances plus ou moins officielles, il existe des disparités dans la reconnaissance de la fibromyalgie au sein des CPAM et des MDPH. Les MDPH, ce sont les maisons départementales des personnes handicapées, ce sont les ex-Cotorep. Il faut savoir qu'il y a une très grande disparité au niveau de toute la France, des inégalités au niveau de la reconnaissance, et même au niveau d'une CPAM, suivant le médecin conseil que vous avez, vous serez reconnu, vous serez pas reconnu, vous serez plus ou moins bien accueilli. Donc cette maladie douloureuse, handicapante, n'est toujours pas reconnue correctement en France, c'est ce qui entraîne justement, dont vous parlez tout à l'heure, des problèmes de dévalorisation sociale, professionnelle, et des difficultés financières chez certains fibromyalgiques. Voilà. Donc, comme Françoise disait tout à l'heure, donc elle est son association. Donc nous, notre association, donc nous avons un site internet. Comme on disait tout à l'heure, au niveau du forum, au niveau du fait de ne pas rester isolé, nous avons un forum qui est ouvert à tous, adhérents et non-adhérents, qui est entièrement sous modération, donc tous vos messages sont lus auparavant, parce que pour éviter tout débordement, puisque nous sommes des malades, nous des malades hypersensibles, et bon, il y a des moments où on craque, donc il vaut mieux que tous les messages sont lus auparavant et contrôlés. Donc vous pouvez venir vous inscrire sur le forum, c'est ouvert à tout le monde, et on y parle, vous y trouverez des renseignements, des informations, vous y trouverez également des témoignages de malades, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez discuter. Vous y trouverez du soutien, et puis rassurez-vous, on ne parle absolument pas que de la maladie. Il y en a qui rient ici, puisque on a un bar virtuel, voilà, où on se retrouve et on parle de. Les gens montrent ce qu'elles font aussi. Bon, les fibromyalgiques sont souvent des artistes, et donc elles sont très douées dans les travaux manuels. Et elles prennent en photo ce qu'elles font, elles le montrent, et voilà, et donc ça donne des idées aux autres, et on voit qu'avec la fibromyalgie, on peut faire plein d'autres choses. Voilà. Et autrement, nous avons une permanence téléphonique, donc qui est 7 jours sur 7, de 10h à 23h, et qui est tenue par des fibromyalgiques bénévoles. C'est elles qui vous répondront. Nous avons un numéro Indigo, c'est le moins cher des numéros Indigo qui existent, il est... Il n'est pas surtaxé, donc nous n'avons qu'un retombé d'argent là-dessus, puisqu'il y en a qui se plaignent, qui nous disent qu'on gagne de l'argent sur les malades. C'est tout à fait faux, on ne gagne absolument rien. On le paye, ce numéro, au contraire. Et donc, et on le paye grâce aux adhérents, d'ailleurs. Et donc, pour éviter donc ces 9 centimes d'euros, ces 9 centimes d'euros la minute, pour éviter ça, la personne, quand elle appelle, elle donne son numéro de téléphone fixe et on la rappelle immédiatement. Et comme ça, ça lui coûte rien. Voilà.
Je pense que vous devez avoir beaucoup de questions. On va se dépêcher parce que là, on est un petit peu en retard. Il y a madame qui doit intervenir et après, la sophrologue.
Désolée d'avoir été peut-être un petit peu vite, mais...